France Culture.
Les matins de France Culture. Jean Lémarie.
C'est déjà un des grands sujets de cette nouvelle année. La hausse du trafic de drogue en France et ses conséquences. Une violence qui gagne du terrain aussi. Une violence que l'État, pour l'instant, ne parvient pas à endiguer. Gérald Darmanin sera à Marseille tout à l'heure. Vous savez que dans les prisons, le nouveau ministre de la Justice voudrait isoler les narcotrafiquants les plus dangereux, dit-il. Ce matin, nous, sur France Culture, nous allons à la source du trafic ou à son débouché. La consommation, les consommateurs de drogue, de plus en plus nombreux dans notre pays. Avec nos invités, on va essayer le plus simplement, le plus directement possible de comprendre ce qui a changé. Et nous accueillons pour cela une sociologue et un psychologue spécialiste des addictions. Bonjour Marie-Geoffrey Roustide.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux à l'INSERM. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de l'Agence européenne des drogues. Je salue également Jean-Pierre Coutran.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes psychologue, addictologue, ancien président de la Fédération Addiction et toujours vice-président de la Société française de santé publique. Les consommateurs sont également de plus en plus pointés du doigt. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau. C'était il y a 2 mois, le ministre de l'Intérieur en déplacement à Rennes.
Il n'y aurait pas d'offre de produits stupéfiants s'il n'y avait pas une demande. Et il faut qu'on arrête avec la culture de la banalisation. Cette culture qui considère que fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est du récréatif. Non, c'est pas du récréatif. Parce que le joint, le rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Et qu'au bout de la chaîne, il y a des narcotrafiquants. Ceux qui ont mis 2 balles dans la tête d'un enfant de 5 ans. Ceux qui, il y a quelques semaines, ont brûlé vif un adolescent de 15 ans sur Marseille, etc., etc.
Bruno Retailleau sur BFM le 1er novembre dernier. Marie-Geoffrey Roustide, le mot « banalisation » est lâché. On l'entend de plus en plus dans le débat. Est-ce que la drogue en France est devenue banale ?
Alors, les usages de drogue augmentent, hein. Ça, c'est une réalité scientifique, mais les usages, il est important, je trouve, aujourd'hui, de parler des usages de toutes les drogues. Et donc, en fait, dans le discours politique qu'on vient d'entendre, on entend parler beaucoup des drogues illicites, donc le cannabis, la cocaïne, qui augmentent. Il est vrai, donc la cocaïne a augmenté, a été multipliée par 10, hein, ces 30 dernières années, concernant l'expérimentation, le cannabis a été multiplié par 2. Donc cette réalité, elle existe de l'augmentation des substances en France, mais également en Europe. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les premières drogues consommées et celles qui font le plus de dégâts aujourd'hui, ce sont des drogues licites, telles que l'alcool et le tabac, qui sont beaucoup plus consommées, à la fois en population adulte, mais également par les plus jeunes, qui s'exposent à des risques en consommant ces substances et qui causent la mort de 80 000 personnes par an pour le tabac et près de 50 000 pour l'alcool. Donc en fait, il est important que nos politiques qui pointent en permanence la responsabilité du consommateur s'attardent également sur la responsabilité de l'État, à la fois sur la question du narcotrafic, on pourra y revenir, mais également sur la question de l'absence d'une véritable politique de prévention de l'ensemble des consommations dites problématiques de drogue et le fait de s'attaquer également à la question des drogues dites légales. Alors, il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans votre émission, on va parler certainement de la question de la dépendance, mais il y a un article récent qui vient d'être publié là en décembre dans la très prestigieuse revue du Lancet, qui est une des meilleures revues scientifiques dans le monde, qui montre qu'en fait, 10% des consommateurs de drogue sont en fait des usagers qui ont des problèmes avec ces substances, c'est-à-dire qui ont des problèmes de dépendance. Ce qui veut dire que 90% des personnes qui consomment des substances en France n'ont pas de rapport problématique à ces substances. Donc c'est également des réalités scientifiques qu'il est important de remettre au centre du débat.
Essayons de cerner encore davantage le profil de ces consommateurs de drogue dans leur diversité, ancien ou nouveau. Jean-Pierre Coutran, d'une drogue à l'autre, est-ce qu'on trouve les mêmes consommateurs ou pas d'ailleurs ?
La caractéristique numéro 1, c'est qu'on trouve le même mécanisme, mais avec une étonnante diversité de personnes. Voilà. Dans ce que disaient Marie et Geoffrey Roustide, on pourrait retenir par exemple les âges. Il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des personnes âgées qui consomment aujourd'hui. On pourrait retenir l'appartenance sociologique. Moi, je travaille à Boulogne-Billancourt aujourd'hui. J'ai travaillé longtemps dans le quartier du Val-Fouré. On a donc des gens qui sont la caricature des jeunes de banlieue ou des quartiers en difficulté. Et puis, à Boulogne-Billancourt, j'ai des gens qui viennent très tôt le matin ou très tard le soir parce qu'ils sont extrêmement pris par une activité professionnelle de haut niveau. Donc, on a une grande diversité de sexe, de genre, d'appartenance, d'âge, et on a un même mécanisme qui est que le comportement, et vous l'avez dit dans votre introduction, vous parlez de drogue, et quelques secondes après, vous parlez d'un comportement de consommation. Or, ce comportement de consommation, aussi étonnant que ça vous paraisse, il ne s'agit pas de le banaliser, mais il s'agit de rappeler qu'il est profondément humain, il existe depuis le début de l'humanité, et ce qui a changé, c'est la qualité des produits que les sciences ont en permanence amélioré, l'accessibilité, vous parlez des drones, on sait que parfois des drones servent aussi à faire tomber des produits à l'intérieur des prisons, voilà. C'est l'accessibilité et la qualité des produits. Mais aller vers un produit pour se sentir mieux, c'est un comportement profondément humain que des milliers de personnes ont, et on rejoint ce que disait Marie, une minorité vont l'avoir et vont poser de gros problèmes avec la pathologie addictive, et d'autres vont l'avoir, et là le vice-président de la Société française de santé publique le dira, on peut être consommateur d'alcool, ne pas être addict à l'alcool, mais avoir des problèmes de santé dus à l'alcool, dus aux conséquences de l'alcool. Vous voyez, c'est ça qui demande un peu plus de nuances, et c'est ça qui demande de réfléchir les politiques publiques en termes de quel marché on veut, comment on veut organiser ce marché. En ce moment, on veut éradiquer complètement le marché de certaines substances, et on est étonnamment passif. Par exemple, le Dry January vient de commencer, il n'est toujours pas soutenu par l'État, il n'est toujours pas encouragé par une politique de prévention dont parlait Marie-Geoffrey Roustide.
Je reviens à mon point de départ, on parle de deux choses distinctes et parallèles, la santé des consommateurs de drogue et les effets aussi sur la société. Dans l'extrait sonore qu'on entendait du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, il était question aussi de morts liées au narcotrafic. On est donc aussi face à une chaîne.
Mais est-ce pas qu'on à la peut drogue.
Est-ce qu'on peut appréhender un phénomène globalement?
Alors oui, cette question du narcotrafic...
Marie-Geoffrey Roustide. Parce que là, on parle de ravages véritablement aujourd'hui, alors, en ce moment.
Elle renvoie à une réalité qui existe, qui est la question de la violence. La violence liée au trafic. Et vous avez raison sur ce point. C'est important de ne pas nier que cette violence existe. Mais cette violence qui, elle touche principalement les personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Et donc, c'est là qui sont délaissées aujourd'hui par la République française. Et donc, en fait, je pense que ce qu'il est important de rappeler dans ce débat, et je pense que c'est France Culture est en capacité de le faire, et c'est important que vous traitiez également ces sujets, c'est qu'en fait, cette violence liée au trafic, c'est aussi la responsabilité de l'État. Parce qu'en fait, pourquoi certains jeunes issus des quartiers populaires vont s'inscrire dans des activités de trafic? C'est parce que, pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire dans des trajectoires scolaires qui leur permettent de devenir juges, instituteurs, avocats, qui sont des métiers qu'ils auraient souhaité choisir. Et donc, en fait, l'absence de politique volontariste, d'égalité des chances, joue un rôle dans la question du narcotrafic dans les cités. Donc ça, c'est un premier élément.
Êtes-vous en train de nous dire c'est la drogue ou rien, Marie-Geoffrey Roustide?
Je ne dis pas ça, mais en tout cas, je renvoie à des travaux très intéressants qui ont été menés à Marseille, qui est une ville souvent citée, par Claire Duport, par Khadija Sarraoui, qui sont sociologues, qui travaillent depuis des dizaines d'années sur ces questions-là, et qui montrent que quand les jeunes issus des quartiers populaires ont la possibilité de choisir, ils vont préférer s'inscrire dans des trajectoires d'insertion qui vont vers les métiers dont je vous ai parlé, juge, magistrat, plutôt que dans la question du trafic. Et c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, qu'ils ne sont pas soutenus par ces politiques volontaristes, qu'on va voir aussi le narcotrafic se développer. Responsabilité de l'État également à un autre niveau. On voit que dans d'autres pays, comme le Canada et la province du Québec, l'État a fait le choix d'encadrer la vente du cannabis. Et encadrer, par exemple, la vente du cannabis, ça fait considérablement baisser le trafic du cannabis. Donc, en fait, la responsabilité de l'État, elle doit être au centre de cette question de la violence liée au narcotrafic.
Je reviens au cœur de notre sujet et à notre question initiale sur le profil des consommateurs. Encore une fois, je l'ai bien compris, Jean-Pierre Coutron, dans leur diversité. Qu'est-ce qui s'est passé tout de même ces dernières années pour qu'on arrive à une telle hausse de la consommation? Je pense aux chiffres que Marie-Geoffrey Roustide nous donnait en commençant. Quel a été le déclic? Quelle a été la bascule?
C'est très difficile de vous le dire avec certitude. On a plusieurs paramètres. Un paramètre qui est quand même les profondes transformations de nos sociétés au décours des années 80-90. On va rentrer dans un... On le voit avec l'élection du président Trump, on le voit avec l'élection d'un certain nombre de leaders illibéraux, comme on dit. On est rentré dans une société de l'hypermondialisation où tout est accessible, où les produits circulent. Donc il y a une offre qui s'est énormément déployée. De l'autre côté, on est dans une société plutôt anxiogène. On est dans une société, de l'autre côté, de la performance. On est dans une société où on relève de plus en plus de traumas dus aux migrations, à l'angoisse climatique, à des violences qui précèdent les drogues, des violences intrafamiliales, ou qui parfois sont dues aux drogues, avec l'alcool. Donc, on a une diversité de l'offre et on a une augmentation, encore une fois, de ce dont je vous parlais au début, qui donne des raisons d'aller vers ce produit. N'oublions jamais que avant d'être addict, on est consommateur. Et que la consommation, c'est un acte tout simple. C'est pas un virus, c'est pas à prendre froid comme j'ai pris froid en étant en vacances avec mes petits-enfants. C'est, on se sent dans un état, on a envie d'aller dans un autre état, de se sentir autrement, d'avoir une autre émotion. Et on va vers un produit dont on a entendu dire, parfois par la publicité, parfois par le bouche à oreille, qui nous permettra de quitter cet état qu'on trouve pas agréable pour aller vers un état qu'on trouve agréable. On veut pas devenir addict, on veut juste quitter une posture et aller vers une autre. Et là, les motifs de quitter une posture ont augmenté, les instruments donnés pour aller vers des nouveaux produits ont considérablement diversifié. Moi, j'ai commencé il y a 40 ans. La plupart des substances dont on parle aujourd'hui n'étaient pas enseignées, n'existaient pas. C'est très simple. Il y avait l'alcool, le tabac, les opiacés, le LSD et, comme on disait dans le jargon, quelques champignons hallucinogènes. Les jeux d'argent, c'était peanuts, on les voyait pas. Les écrans, ça n'existait pas. Et toutes les nouvelles drogues aujourd'hui, les drogues de synthèse, n'existaient pas. Vous voyez cette diversité de l'offre.
Et diversité aussi des lieux de consommation. Je sais que c'est un point que vous connaissez bien, Marie-Geoffrey Roustide. On l'entend beaucoup d'ailleurs dans nos reportages au fil des mois, notamment une consommation de drogue différente aujourd'hui est étendue dans des zones rurales, à la campagne, là où la drogue ne venait pas. Racontez-nous cela.
Alors tout à fait, cette question de la consommation dans les zones rurales, alors c'est un phénomène qui s'amplifie mais qui a toujours existé. Ce qui a changé, c'est l'ubérisation du trafic. Et donc en fait, auparavant, les consommateurs allaient sur les lieux de deal pour acheter des produits. Aujourd'hui, les produits viennent aux consommateurs. On peut commander sur Internet, on peut commander par son téléphone portable. Et dans ce cadre-là, les drogues vont arriver plus facilement également en milieu rural avec la mondialisation, l'augmentation de l'offre, la facilité des moyens de transport. Mais il y a un élément très important également qui explique l'augmentation de la consommation en zone rurale, c'est la question de la pauvreté. Parce que la question de l'augmentation des substances...
C'est la question que j'allais vous poser.
Elle est liée à la crise économique. Les travaux scientifiques le montrent. Chaque fois qu'on est confronté à une crise économique, on a une augmentation de la consommation et de la dépendance, qui est liée à la question du mal-être. Donc santé mentale et dépendance sont deux phénomènes qui peuvent être liés. Et quand on est face à des crises économiques, les gens vont mal. Et donc, comme ils vont mal, ils se retournent vers l'alcool, vers les médicaments psychotropes et également vers des drogues illicites. Dans la Meuse, par exemple, il y a eu des reportages récemment sur cette question-là, sur la question de l'héroïne qui a considérablement augmenté dans ces régions rurales. La crise des overdoses opioïdes aux États-Unis, elle est également liée à la pauvreté et à la question des inégalités sociales. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette question aussi de la responsabilité de l'État pour diminuer, mettre en place des politiques volontaristes qui diminuent les inégalités sociales, parce que l'augmentation des drogues, elle est révélatrice de nos sociétés, de l'évolution de nos sociétés, et elle amplifie également les inégalités sociales.
Mais n'y a-t-il pas un paradoxe aussi? La drogue a un prix. A fortiori pour des gens qui sont pauvres.
Alors oui, mais ce prix diminue aussi pour certaines drogues. L'augmentation de la cocaïne, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le produit dont la consommation a augmenté le plus ces 30 dernières années, il est lié également à une baisse considérable du prix du produit, parce qu'il y a une offre de cocaïne très importante. Les prix de la cocaïne ont beaucoup baissé. La cocaïne, dans les années 80, était plutôt réservée au milieu de la nuit, au milieu de la jet set. Aujourd'hui, c'est un produit qui est consommé par une diversité de profils sociaux. En raison de la baisse également du prix de ce produit.
La consommation de la drogue, la source, le débouché du narcotrafic, on continue à en parler avec vous deux. Merci d'être là, Marie-Geoffrey Roustid, Jean-Pierre Coutron. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour aller plus loin.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lemarie.
Pourquoi la consommation de drogue a-t-elle autant augmenté en France dans sa diversité? Le trafic, on le disait tout à l'heure, est en forte hausse. La violence également. Et dans notre pays, les consommateurs de drogue n'ont jamais été aussi nombreux. On essaie d'analyser le plus finement possible ce phénomène ce matin. Avec nos invités, je le rappelle, la sociologue Marie-Geoffrey Roustid de l'INSERM et le psychologue et addictologue Jean-Pierre Coutron. On l'entend régulièrement, les magistrats sont inquiets, les policiers sont inquiets aussi de l'évolution du phénomène. Êtes-vous aussi inquiet que Jean-Pierre Coutron ?
Il y a de quoi être inquiet par rapport à cette histoire de narcotrafic, où on voit, de façon évidente, faut pas le nier, monter une violence, utilisation d'armes de guerre, bataille pour des territoires, voilà. Donc ça, ce serait être naïf de ne pas être inquiet. Après, l'analyse que l'on peut avoir, c'est est-ce que ça se résume à une question de drogue, au sens du comportement social et culturel dont on vient de parler, ou est-ce que c'est dû à une mauvaise organisation du marché, de l'accessibilité? Et là, il pourrait y avoir un débat un peu plus intelligent. Marie terminait en évoquant ce qui se passe au Canada. Moi, j'étais en Suisse. Il y a une politique des quatre piliers très historique en Suisse qui vient d'être fêtée avec un livre qui en refait l'histoire. Mais en Suisse, ils ont aussi ouvert un marché du cannabis légal. Et quand vous allez dans une boutique acheter du cannabis légal, vous n'avez pas ces phénomènes de violence, vous n'avez pas ces phénomènes d'agressivité. Ça ne résout pas tout. Mais encore une fois, si vous enlevez 80, 60, 50% d'un problème, pourquoi ne pas vouloir le faire? Pourquoi en France, on veut être absolument dans du frontal, dans du viriliste, dans de la guerre? Voilà. C'est une vraie question. Donc on peut être inquiet de cette violence, on peut interroger le pourquoi de cette violence et ne pas l'attribuer automatiquement à la drogue, mais c'est pas la même chose au marché et à l'organisation du marché de la drogue.
Alors la question du cannabis n'est pas celle de la cocaïne, qui n'est pas celle de l'héroïne. Néanmoins, je pense à ces élus, par exemple, qui pourraient vous entendre ce matin expliquer qu'il faut organiser le marché du cannabis, eux qui sont confrontés aux conséquences direct de cette situation problématique sur le terrain. Il y a de quoi être heurté pour eux en vous écoutant ce matin, Jean-Pierre Coutron.
Je ne crois pas, parce que justement, c'est prendre en compte le fait que sur leur territoire, ce marché-là génère plus d'inconvénients que s'il était organisé un petit peu autrement. Encore une fois, pense-t-on vraiment pouvoir supprimer tous ces comportements de consommation? C'est ça que j'aimerais qu'on réfléchisse. 30 secondes et je passe la parole. Mais qu'est-ce qui fait l'avantage de la drogue sur un autre comportement? C'est que c'est pharmacologique. Si j'ai un stress et que je prends un produit, en quelques minutes, mon stress est chassé. Si j'ai un stress et que j'essaye de le traiter par l'éducation, par la méditation, ce sera un peu plus long, un peu plus complexe et moins mécanique. Si j'ai une douleur, la même chose. La réponse pharmacologique, elle est étonnamment séduisante. Elle est rapide. Elle va directement dans le cerveau. Elle nous fait faire, au mauvais sens du terme, l'économie de toute l'éducation, de toute la culture. Donc ça, c'est séduisant. Personne n'y résiste. Aucun adulte n'y résiste. Il n'y a pas que les enfants qui se piègent là-dessus. Même pour nous, c'est plus difficile de supporter sa douleur que de prendre quelque chose qui le calme tout de suite. C'est pour ça que les médicaments font partie des drogues. C'est pour ça que l'alcool
fait
partie des drogues.
Vous parlez là de drogues licites.
Mais de toutes les
prescrites.
Drogues. Voilà. Et donc, comparons les drogues dont on a organisé le marché aux drogues dont on n'a pas organisé le marché. Regardons ce qui rend les choses les plus violentes et ne perdons pas de vue que, in fine, ce qui est le cœur de la bataille, c'est les bénéfices, c'est l'argent. La plupart des gens qui vivent de la drogue ne sont pas forcément les consommateurs de drogue. Hein. C'est l'argent qui est en bout de chaîne.
Je lisais un chiffre d'ailleurs qui m'a effaré. On estime, c'est une estimation évidemment, qu'en France, entre 200 et 250 000 personnes tirent leurs revenus directement ou indirectement du trafic de drogue, mais c'est pour compléter ce que vous disiez. Si on continue sur l'analyse et sur le tableau sociologique également, Marie-Geoffrey Roustide, je voudrais qu'on parle de ce que vous observez, vous, sociologue, dans le monde du travail, car c'est aussi un élément de diffusion de la drogue, des drogues très importants. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui change là en ce moment ?
Alors, sur cette question de drogue et travail, je renvoie aux travaux de Gladys Lutz, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique, ce qu'on voit sur ces questions, c'est que ce sont les environnements de travail qui amènent aussi les personnes à consommer. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans des environnements de travail qui incite de plus en plus, enfin avec une injonction à la performance. Et donc, en fait, on voit que les métiers dans lesquels on consomme le plus de drogue, ce sont quels métiers ? Les métiers de la nuit, de la restauration, les chauffeurs routiers, les marins-pêcheurs, où il y a une grosse consommation de cocaïne. Ce sont les métiers en lien avec la médecine, les métiers avec des horaires décalés. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il faut aussi s'attaquer à la question des organisations de travail, créer des environnements favorables afin que les personnes se sentent mieux et limitent leur consommation de drogue problématique. Et cette question-là, des environnements de travail à améliorer pour limiter les consommations de drogue dites problématiques, elle renvoie à la question de la prévention de l'usage de drogue de manière générale. Si on agit sur la question des traumatismes dans l'enfance, on sait, moi je le vois dans les entretiens que je mène avec les personnes qui consomment des drogues et qui consomment des drogues de manière problématique, qui sont dans des situations de dépendance, une partie importante d'entre eux ont vécu des traumatismes dans l'enfance, ont pu subir des violences et vont utiliser les drogues comme un médicament. Et donc, en fait, si on ne met pas en place une vraie politique pour améliorer la santé mentale, les conditions de vie des personnes, pour limiter les effets des crises économiques, on ne peut pas avoir de véritable prévention, en tout cas de l'usage de drogue, parce que c'est un phénomène multifactoriel. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point, mais on a tendance souvent à faire reposer la responsabilité de l'usage, la responsabilité de trafic du côté du consommateur, mais il faut également traiter cette question d'une manière plus complexe et voir les environnements dans lesquels se développent les consommations dites problématiques. Il y a un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la question des élus. Donc en fait, vous parlez des élus effectivement qui parlent des problèmes liés au narcotrafic, mais déplaçons notre regard sur la question de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est un marché qui est de drogue, parce que l'alcool est considéré comme une drogue aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, et donc, de par ses effets, qui sont les mêmes en termes de dépendance que ce qu'on peut observer avec le cannabis, avec le tabac. Voilà, donc en fait, cette distinction par rapport à la dépendance drogue légale, drogues illégales, il faut la mettre de côté. Des produits légaux peuvent donner lieu à des états de dépendance importants, mais le marché de l'alcool, on l'a organisé. Avant, aux États-Unis, dans les années 30, il y avait une prohibition de l'alcool, comme on a une prohibition du cannabis, de la cocaïne en France. Et les effets étaient désastreux. Il y avait des morts liées à la consommation d'alcool parce que les produits étaient frelatés. Et donc, on a organisé le marché de l'alcool. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de plus en plus de pays et de gouvernants dans le monde, que ce soit au Canada, comme on l'a évoqué, aux États-Unis, mais également en Europe, Jean-Pierre Coutron a cité la Suisse, mais c'est le cas de l'Allemagne également, qui s'engage dans la voie de la légalisation du cannabis. Nos voisins suisses et nos voisins allemands sont des pays qui prennent des décisions sur la base du pragmatisme et qui se disent quelle est la politique qui va réduire les risques liés à la consommation de substances. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui réduit les risques.
Vous le dites pour le cannabis, est-ce que vous utiliseriez le même argument pour la cocaïne dont la consommation, vous l'avez souligné, est en forte hausse?
Alors, c'est ce que propose la maire des Pays-Bas aujourd'hui. Elle propose un encadrement du marché de la cocaïne. En Suisse, la cocaïne est peut être prescrite, comme c'est le cas pour l'héroïne. On a des médicaments à base d'héroïne. Il ne faut pas oublier que la cocaïne, l'héroïne, ont été utilisées comme des médicaments également. Hein. Et donc, en fait, quand on parle d'encadrement d'encadrement, par exemple, du marché de la cocaïne ou de prescription de cocaïne ou de prescription d'héroïne, il faut bien avoir en tête qu'on parle de personnes qui sont en situation de dépendance très forte vis-à-vis de ces produits. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on va proposer dans des bureaux de tabac à des jeunes de consommer de la cocaïne ou de l'héroïne. Attention, encadrer le marché, ça ne veut pas dire faciliter l'accès à ces produits. Au Québec, par exemple, la vente de qui est le pays aujourd'hui, enfin la province du Canada, qui a les résultats les plus intéressants en termes de santé publique vis-à-vis de la concernant la légalisation du cannabis. La vente de cannabis est interdite aux jeunes de moins de 21 ans parce qu'on sait que jusqu'à cet âge, les effets du cannabis sont beaucoup plus risqués qu'au-delà. Autre élément, et je m'arrêterai là, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, les risques liés aux produits ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Parler de la consommation de drogue chez les plus jeunes, ce n'est pas la même chose que d'en parler chez les adultes ou chez les personnes âgées. Donc il faut aussi avoir en tête, encadrer veut dire aussi protéger dans certains cas.
Jean-Pierre Coutron, je m'adresse aussi au psychologue, à l'addictologue, à votre longue pratique. Osons une question beaucoup plus brutale encore. Est-ce que vous considérez qu'il y aurait un bon usage de la cocaïne ou de l'héroïne ?
Il n'y a pas un bon usage de la cocaïne et de l'héroïne.
Est-ce que ce n'est pas intrinsèquement problématique médicalement ?
Il y a actuellement des usages des opiacés pour lutter contre la douleur, qui sont des usages dont chacun d'entre nous bénéficie. Il va y avoir des usages...
Et qui parfois entraînent une dépendance, vous nous le disiez.
Alors, et qui parfois entraînent une dépendance, mais quand ils sont prescrits médicalement par des personnes qui savent gérer ces médicaments, l'inconvénient de la dépendance est très bien traité. Quand ils sont prescrits de façon un peu trop larga manu, mal encadrée, on peut avoir ces problèmes-là. Et là, c'est un débat de formation des médecins et d'encadrement des médecins. Le professeur Nicolas Autier, la haute autorité, travaille sur ces choses-là. On est actuellement, des collègues travaillent sur des programmes pour réintroduire le LSD et un certain nombre de psychodysleptiques comme étant des médicaments de la dépression, peut-être même de l'alcool. Le cannabis médical, qu'on risque hélas d'arrêter actuellement, aurait permis d'enlever une partie de cette clientèle qui est obligée d'aller sur le marché criminel et qui aurait pu aller l'acheter d'une façon tout à fait tranquille en pharmacie. Il s'agit de comprendre que ces substances sont à la fois une solution pour chacun d'entre nous et à la fois un problème. Et c'est pas la substance qui est diabolique, c'est le mode d'usage et parfois, osons le dire, le mode de commercialisation qui n'est pas adapté. Vous évoquiez la question de l'alcool. Oui, d'accord, l'alcool. Mais regardez ces alcools frelatés de mauvaise qualité qu'on vend aux jeunes avec vaguement un jus d'ananas dessus pour le faire passer à quelques euros pour que même avec des problèmes d'argent, ils puissent acheter des grandes quantités d'éthanol et se défoncer de façon scandaleuse. On a là une double morale qui est assez inquiétante. L'État est très sévère avec le petit consommateur de cannabis et laisse vendre et laisse accessible dans tous les supermarchés ce type d'alcool qui n'a rien à voir avec les plaisirs gustatifs ou l'œnologie qu'on nous vend par ailleurs. Donc, il y a une grosse hypocrisie dans l'organisation de ces marchés. Je crois que vous ne trouverez pas un addictologue pour banaliser les substances psychoactives. Voilà. On en connaît les avantages, on en connaît les risques, et on sait qu'il est impossible d'avoir les avantages sans avoir les risques. Donc, on sait qu'il faut, ce que vient de dire Marie-Geoffrey Roustic, très simplement, il faut organiser un marché qui ne résoudra pas tout à 100%. Personnellement, je ne crois pas que même la meilleure politique de régulation résoudra tout à 100%. Si certains pensent que la prohibition peut tout résoudre à 100%, je leur laisse cette utopie. Mais oui, les politiques de régulation d'un marché organisé pourraient permettre de faire baisser une partie de la violence et de mieux encadrer l'accès aux effets dont on a besoin, puisqu'ils existent, en limitant les risques des effets dont on n'a pas besoin, puisqu'ils existent.
Un sujet médical d'abord, de violence ensuite. Vous proposez une réponse économique, Jean-Pierre Coutron.
Oui, parce que encore une fois, vous l'avez dit en ouvrant, réécoutez votre ouverture, il s'agit d'un marché. Ces substances sont sur Terre depuis que l'humain y est. On les a améliorées, on en a fait des médicaments, on en a fait des substances psychoactives. Qu'est-ce qui organise
la rencontre ? Mais le marché, pardon, c'est la solution ou c'est le problème, encore une fois ? Parce que ce que cherchent les autorités, c'est à casser ce marché.
Mais encore une fois, le marché, c'est la solution. Si on l'organise, c'est la solution.
Marie-Geoffrey Roustide.
Alors, c'est une une partie de la solution, hein, uniquement, comme vient de le dire Jean-Pierre Coutron, mais il faut faire attention à la question de la régulation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la légalisation du cannabis. Il y a différents modèles de légalisation du cannabis. Il y a un modèle basé exclusivement sur les profits économiques, tel que ça a été mis en place aux États-Unis. Ce modèle, il ne fonctionne pas. Il crée plus de dommages que de bénéfices. Il y a en revanche des modèles de légalisation du cannabis, et c'est pour ça que j'utilise l'exemple du Québec, et c'est dans cette voie que vont la Suisse, l'Allemagne, qui sont des modèles de légalisation du cannabis très axés sur la santé publique, avec un réinvestissement de l'argent de la vente du cannabis uniquement dans la santé publique, dans les campagnes de prévention, dans les soins pour les personnes qui ont besoin de soins et qui sont dans des situations de dépendance. Et ces modèles fonctionne. On a un recul maintenant de 5 ans environ sur la question de la légalisation du cannabis au Canada. Qu'est-ce qu'on voit ? Depuis que, et en particulier au Québec, qui est la province qui a choisi le modèle le plus restrictif, on voit qu'au Québec, l'âge à l'initiation du cannabis, c'est-à-dire l'âge auquel on prend pour la première fois du cannabis, a reculé depuis la légalisation. Et c'est là, c'est ces premiers usages qui sont les plus à risque. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup d'argent a été mis dans la prévention, les Canadiens aujourd'hui ont une conscience beaucoup plus importante des risques liés au cannabis qu'avant la légalisation. Donc en fait, cette politique de réduction des risques qui va améliorer l'information, qui va favoriser l'accès aux soins, elle est efficace. Autre chose, moi, je m'appuie sur la science. Hein. J'évoquais en début d'émission cette publication du Lancet. Cette publication du Lancet, elle dit aussi que toutes les études montrent que la répression ne fonctionne pas. L'approche prohibitive telle qu'elle a été mise en place en France n'a pas fait baisser la consommation. La France est le deuxième pays européen à avoir le niveau le plus important de cannabis en Europe, sur 37 pays, alors qu'on est un des pays les plus répressifs. Donc, la répression n'a pas fait baisser la consommation. Elle coûte très cher à la société. Et en plus, elle augmente les problèmes de santé liés à la consommation de drogue.
Jean-Pierre Coutron, je vous vois réagir.
Oui, pour compléter ce que dit Marie, c'est-à-dire, la prévention, c'est pas uniquement faire peur en disant les drogues, c'est dangereux. C'est apprendre à nos enfants les possibilités de faire sans ces produits-là. Et donc, une partie de la régulation du marché permet de faire ça. La deuxième chose, c'est que...
C'est pas le marché à la place de la prévention.
C'est pas le marché à la place. Et c'est pas, et ce que disait Marie est très juste.
Parce que vous comprenez encore une fois que ce que vous dites tous les deux peut choquer,
oui,
peut heurter.
Mais encore une fois, entendons ce qu'on dit. On dit pas n'importe quel marché. Nos collègues suisses, par exemple, qui commercialisent le cannabis, ont une mission qui leur a été donnée par l'État fédéral suisse, qui est que l'opération doit être blanche. L'État ne doit même pas dépendre du bénéfice, alors que l'État, aujourd'hui, il a les mains liées sur l'alcool. Il a eu très longtemps les mains liées sur le cannabis. Il donne des morales alors que lui-même ne s'est pas donné les moyens d'être indépendant par rapport à ces enjeux économiques. Donc le marché, c'est pas le marché hyper libéral incontrôlé, c'est un marché régulé où l'État prend ses responsabilités et se positionne comme acteur de santé publique. Ce que vient de dire Marie, je vais pas le redire, ce qu'elle vient de dire en donnant des exemples très documentés.
Regardons ce qui a été fait sur le tabac, par exemple. C'est-à-dire que le tabac se vend dans les bureaux de tabac. Donc le marché du tabac, il est régulé. Mais par contre, en France, il y a une politique de santé volontariste qui a été mise en place autour du tabac grâce à la loi Evin. La consommation de tabac, ces 20 dernières années, a été divisée par deux. Parce qu'en fait, le marché a été régulé. Beaucoup d'argent de ce marché a été investi dans la prévention. Donc c'est pas du tout à la place d'eux, c'est réguler le marché pour que les personnes qui consomment aient accès à des produits moins à risque, moins dosés, parce qu'un des problèmes du cannabis, c'est aussi des marchés très dosés. Quand vous vous approvisionnez sur le marché illégal, vous ne savez pas ce que vous consommez, alors que sur le marché légal, vous pouvez connaître la teneur en principe actif, donc vous réduisez les risques, et réinvestissons l'argent de ce marché dans un système régulé par l'État pour que plus d'argent puisse être mis dans la prévention et également dans les soins. Et puis le dernier point, c'est que la répression, les approches prohibitives, elles amènent le consommateur à avoir honte à cacher sa consommation et elle l'éloigne des soins. Et si on veut avoir des soins de qualité pour les personnes qui sont dépendantes vis-à-vis de ces produits, il faut pouvoir parler de ces produits, parler de leurs bénéfices et de leurs risques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut des politiques de régulation, des politiques de prévention, de création d'environnements favorables, d'amélioration des conditions de vie. En gros, c'est une question complexe qui nécessite des réponses complexes.
Et si je voulais être provocateur des politiques, j'en rencontre parfois, vous direz, vous voulez faire de l'État un dealer. Je suis volontairement provocateur, Jean-Pierre Coutron.
Non, on veut pas faire de l'État un dealer, on veut faire de l'État un acteur de santé publique. Et pour ça, il faut qu'il accepte de regarder ce que vient de dire Marie et ce que je vous répète en boucle, qui est qu'on va vers ces substances parce qu'on en attend quelque chose et qu'elles sont capables de le faire.
La politique de santé publique, ça on l'a bien compris en vous écoutant tous les deux depuis tout à l'heure, c'est un tout. C'est un tout avec différents aspects, différentes entrées. Sauf que nous avons aujourd'hui une justice débordée, une police qui n'arrive pas à répondre aux conséquences du narcotrafic, un système de santé absolument débordé également. Sur tous ces volets, on est déjà en difficulté aujourd'hui. Comment concevoir un système global, puisque vous appelez de vos voeux un système et une réponse globaux et globale ?
En faisant des économies sur l'argent qui est mis sur la répression, qui concerne aujourd'hui à peu près 89% des dépenses liées aux drogues, et en c'est-à-dire que si on arrête de poursuivre les consommateurs, hein, je ne parle pas du trafic qui doit continuer à être pénalisé, mais si on arrête de poursuivre les consommateurs, on va faire des économies extrêmement importantes et toutes ces économies peuvent être réinvestis dans la prévention, dans la réduction des risques, dans les soins, dans l'hôpital public qui manque véritablement de besoins.
Jean-Pierre Coutron.
Oui, en ayant une vraie politique de prévention, voilà, en accompagnant les familles. C'est au départ dans l'accompagnement des familles, dans la politique de prévention, qu'on trouvera une action plus efficace qui évitera de dépenser après beaucoup dans des politiques répressives qui ont quand même échoué depuis 50 ans.
Dans le travail quotidien que vous connaissez bien auprès des consommateurs, là encore, dans leur diversité, qu'est-ce qui marche,
voilà. Je vais vous dire un exemple.
Vous insistez quand on a sur ouvert, le fait qu'il ne faut pas faire
quand on a
reposer
ouvert,
la responsabilité
quand on a ouvert
sur
en 2004 les consultations jeunes consommateurs. La première surprise des autorités à l'époque, c'est que c'est les familles qui sont venues en masse et pas les jeunes. La deuxième surprise, c'était que quand on arrivait à résoudre quelque chose sur les 3-4 consultations qui étaient données, ils nous disaient, mais ça voulait dire que c'était pas grave. Et on leur disait, mais vous rendez compte de l'absurdité que vous faites. On arrive à faire qu'un gamin arrête de consommer. Comme il arrête de consommer, vous dites c'était pas grave, on ne veut voir que les cas problématiques. Si on raisonne sur les cas problématiques, on passe à côté de ça et on attend que le cas soit problématique pour le traiter. On a un problème culturel en France qui est d'attraper l'intérêt de ce travail de prévention, l'intérêt de l'intervention précoce, l'intérêt d'être là. Et ça, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire dire, ça passe aussi par des interdits forts, clairs, Marie le rappelait, l'interdit de consommation mineure, le faire appliquer, faire que les jeux d'argent soient pas vendus aux mineurs, faire que le tabac soit pas vendu aux mineurs, faire que l'alcool soit pas aussi facilement à disposition. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la police et par la justice de façon plus efficace que de s'épuiser contre un narcotrafic qu'un marché trop fermé a créé et a rendu puissant.
Merci à tous les deux. Bon débat. Marie Geoffrey Roustide, chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux à l'INSERM, je le rappelle, et Jean-Pierre Coutron, longue expérience de psychologue et d'addictologue. Vous êtes toujours vice-président de la Société française de santé publique. Votre échange, on pourra le retrouver sur l'appli Radio France.
Bonjour, c'est Marina Carrère d'Encausse. Carnet de santé, c'est votre santé et celle de vos proches. Avec tous les enjeux que représente la santé, le progrès médical bien sûr, mais aussi l'économie, la politique, l'éthique, la lutte contre les inégalités et les discriminations. Carnet de santé, c'est tout ça et bien plus encore. Ajoutez le podcast Carnet de santé à vos favoris dans l'application Radio France ou sur le site de France Culture. Chaque nouvel épisode sera prêt à écouter quand vous voulez dans votre bibliothèque personnelle.